Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
Au FM 93.
93.
On avait fait du progrès, mais je sens qu'on régresse là. Je sens qu'on régresse. Là, depuis une semaine à peu près, on commence l'émission, 7h pile poil. L'horaire est sharp, tout est droit. Commence à faire clair dehors, les journées rallongent. Pourquoi c'est sombre comme ça ce matin, donc?
Ouais.
C'est la neige. C'est à cause de la neige.
Ouais. Qui c'est qui gère ça, là?
Donc, le cadran pas sonné le matin, le soleil. Ouais. C'est un peu sombre. Mais c'est un beau petit tapis blanc, là. Ouais. C'est bucolique, c'est folklorique, c'est le Québec, les amis.
C'est de la petite neige légère, mais il y en a beaucoup ce matin.
Ouais,
quand même.
Petite neige quand même.
Il y a 5-6 cm.
Sur Laurentienne, tu disais en t'en venant, il y avait un bon.
C'est un fond de neige, sauf la traque du centre, comme on dit en bon français.
Alors, bonjour à tous, bienvenue que Québec se lève. On s'installe, Levez, Alexis Sanson. Je m'appelle Paul-Raphaël Charon, on est avec vous jusqu'à 10h. Et on commence la journée avec vos nouvelles.
Une femme d'une vingtaine d'années a été arrêtée après une agression à l'arme blanche à Limoilou. Les policiers sont intervenus hier midi dans un immeuble à logement de la 17e rue. La victime, un homme dans la vingtaine, a été transporté à l'hôpital pour des blessures au haut du corps, dit-on. On ne craint pas pour sa vie. La police de Québec refuse de s'avancer sur le lien qui unit l'homme à la femme. Elle va devoir comparaître aujourd'hui par vidéo-comparution. L'impasse demeure à propos du blocus ferroviaire. Malgré les discussions, le ministre fédéral des services autochtones, Mark Miller, s'est entretenu pendant 9 heures hier avec des représentants de la nation Mohawk. Le ministre a fait état d'avancées modestes à sa sortie. Le transport ferroviaire est perturbé à plusieurs endroits au pays en solidarité avec les chefs héréditaires de la Première Nation Wet'suwet'en qui s'opposent à un projet de gazoduc qui traverse leur territoire en Colombie-Britannique. Un autre décès à motoneige s'est produit samedi, cette fois à Tourville, en Chaudière-Appalaches. Un homme d'une quarantaine d'années aurait fait une violente sortie de piste après avoir raté son virage. Les autorités ont constaté son décès lors de leur arrivée sur place. Un autre incident en motoneige qui vient alourdir le triste bilan 2019-2020, marqué par le drame au lac Saint-Jean.
Le Canadien a échappé une avance de 3-0 en deuxième période pour s'incliner finalement 4-3 contre les Stars de Dallas en prolongation. C'est une quatrième défaite de suite pour le Canadien qui va disputer ses trois prochaines rencontres sur la route tournoi. Puis oui, hier, c'est Éric Lindros qui a volé la vedette. On en reparlera en détail dans les prochaines minutes. Mais il faut savoir aussi que les petits remparts ont gagné leur match 7-0 contre la Croatie. Les petits Nordiques vont jouer à 13h cet après-midi. Les grands remparts jouent à Rimouski cet après-midi. Sénic a gagné ses 11 derniers matchs. Et on va surveiller ce matin, vers 9h30, Félix Auger-Aliassime qui joue en finale du tournoi de Rotterdam contre le Français Gaël Monfils. Un bon contrat.
Oui, un bon contrat, mais Félix, ça va bien. Là, t'es en forme en finale. Oui. Très bien joué d'ailleurs hier. On regardait ça en même temps qu'on faisait l'émission.
T'as
plein d'affaires en même temps.
Oui, on est multitâche.
Vez, si la neige te déplut ce matin, va falloir que tu prennes ton mal en patience parce qu'il y a quand même quelques centimètres qui nous attendent aussi dans les prochaines heures et même demain et après-demain. Là. Parce que regarde, le maximum aujourd'hui, c'est zéro. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hier, on se plaignait parce qu'on était gelé comme des crotons. Là, au moins, c'est doux. Ce matin, c'est beaucoup plus confortable. On va atteindre zéro en courant de journée. Moins 7 la nuit prochaine. Demain et mardi, même mercredi, moins 5, moins 6. Donc, c'est tolérable. Mais demain, on part à peu près 6 centimètres dans ce moment jusqu'à demain. J'estime entre 5,5 et 6,3 cm.
T'as bien mal organisé, ça.
Puis mardi, un 10-15. Donc, il va quand même tomber un peu de neige. Retour du soleil pour mercredi. Ça, c'est ce que Météo Média prévoit. Pour l'instant, c'est moins 8.
Te rends-tu compte que la différence de température entre hier matin à la 20h puis ce matin, c'est à peu près 20 degrés?
C'est la même chose.
Puis on sent pas vraiment une grosse différence.
On le sent,
mais on le sent pas autant que si c'était de la différence entre 0 et 20 degrés.
Ah non, ça c'est. Ça c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai que la différence entre moins 28 puis moins 8, c'est pas comme 0 puis plus 20.
Ouais.
Non, t'as bien raison. Mais parce que hier, moi, j'avais une cuisse qui voulait me fendre, puis j'étais à l'extérieur pendant 40 secondes.
Mais tu sais, on était quand même autour de moins 10 là, ce matin. Là. On atteint autour de 0, mais 0 puis moins 20, c'est quand même une plus grande différence. Tu sais, c'est comme une différence là, entre 10 puis 20. Et 10 puis 20, c'est encore pas si mal là, quand tu compares
mais
ça.
Mais hier, c'était moins 27.
C'était moins 30. Là.
C'était moins 29 quand je me suis réveillé chez
nous. Voulez-vous savoir avec -8. Voulez-vous savoir avec le refroidissement éolien?
Non, okay, on n'a pas besoin.
Bon, je vous dirai pas. Mais de toute façon, le vent.
Ce qu'on a besoin de savoir, c'est si il vente, on va sentir que c'est plus froid.
Ben là, c'est des vents de 7
km/h. Ouais, ça vaut même pas la peine.
C'est comme si le vent il allait à la vitesse de quelqu'un qui fait de la marche rapide.
Comme disait Claude Raymond à un match des Expos, le vent est immobile au champ centre.
Wow, je l'aime bien celle-là. On restait dans le sport, Vez, parce que t'as passé hier. Une chance que t'es pas syndiqué, Vez, parce qu'il aurait fallu que tu payes des heures supplémentaires hier.
Ouais.
T'as passé ta journée au centre Vidéotron.
Oui, ben après l'émission hier matin, je suis allé au centre Vidéotron pour le tournoi POI parce que Éric Lindros était un des invités de la journée pour faire la mise au jeu avant le match des petits remparts à 13h.
Et d'ailleurs, les noms des équipes, là, je trouve ça extrêmement cute. S'ils appelaient ça les mini-remparts ou les remparts juniors, ce serait vraiment moins cute, mais les petits nordiques, les petits remparts, là, je trouve ça vraiment malade.
Ouais, ben c'est parce qu'ils portent depuis plusieurs années, on fait ça. Je pense que c'est les deux meilleures équipes de la région qui se partagent. Une équipe prend l'uniforme des Nordiques et l'uniforme des remparts. Ils sont vraiment habillés comme les vrais Nordiques.
Mais eux autres, ils doivent tellement triper.
Ben oui, absolument.
Là, hey, imagine,
d'ailleurs,
là.
L'équipe qui représente les petits remparts, c'est les As 3 là, de Québec qui ont pratiqué, ils ont fait un entraînement avec les vrais remparts durant la semaine.
Ah ouais!
Oh, oui.
Hey, imagine le rêve, là. Tu joues.
Oh, oui,
t'es un flot de 11-12, c'est ça, 10-11?
11-12.
11-12. Puis tu joues avec les remparts. Hey,
excuse, il faut dire U13 maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
M13. Moins de 13.
M13. Ouais.
Et probablement qu'eux sont plus heureux de jouer avec l'uniforme des remparts que des Nordiques, parce qu'ils connaissent pas trop l'uniforme des Nordiques.
Ouais. Hein? Mais même ceux qui jouent, qui représentent les Nordiques, donc les petits Nordiques, durant un de leurs entraînements, il y a des anciens Nordiques qui vont s'entraîner avec eux autres. Alain Côté le fait cette année. Alain Côté pas mal là toutes les années. Mais l'an dernier, j'avais fait un petit vox pop avec les joueurs de l'équipe Pee-Wee, c'était une équipe du séminaire Saint-François qui représentait les petits Nordiques l'an dernier. Puis j'étais allé les voir à un entraînement avec des questions sur les Nordiques.
Ah ouais? C'est
pour savoir c'était quoi leur niveau de connaissance de l'équipe qu'ils représentaient finalement.
Pas
ben, c'était quand même pas si mal, honnêtement.
Ah ouais?
Oui. Ben, tu sais, ils ont des parents qui ont connu les Nordiques.
Genre
pour
les frères
Stachny,
ils savaient c'est qui.
Oui. Puis qui a été le coach le plus connu, puis etc. T'sais,
je sais même pas.
Ben, Michel Bergeron, voyons donc.
Ah oui, je savais. OK. Non, mais c'est parce que ben, j'allais dire, je sais même pas, sûrement Bergy, mais puis là, ben, tu m'as demandé.
Tu sais, j'avais une douzaine de questions, plus ou moins faciles. Ça doit traîner quelque part dans le système. On avait joué ça à peu près à pareille date l'an dernier.
Essaye donc voir, fais donc une recherche exhaustive, Alexis. Vox Pop, Vez, puis oui.
Nordique.
Nordique.
Ben, je vais me lancer là-dedans. Là.
C'est dans Bouchard en parle.
Ah, ça me donne un indice.
Oui.
Déjà, ça va circonscrire la recherche.
Mais bref, revenons à ma journée d'hier, parce que, évidemment, on allait rencontrer Éric Lindros qui allait être présenté au public de Québec.
C'est ça.
On sait qu'Éric Lindros avait été le mal-aimé des gens de Québec quand il avait tourné le dos aux Nordiques en 91. Les Nordiques l'avaient repêché au tout premier choix du repêchage de 91. Puis Lindros, on pensait à l'époque, il se disait tellement de choses, là. Écoute, je me souviens, j'avais couvert ça assez bien, là. Mais tu sais, on disait que c'était un anti-francophone, un anti-québécois, qu'il trouvait le marché de Québec trop petit, il ne voulait pas jouer pour une équipe perdante, il ferait moins d'argent.
On comprend au final.
Il y a plein de rumeurs également qui ont circulé.
On comprend au final que
c'était un conflit avec Marcel Aubu.
C'est la faute à Marcel Aubu.
Ouais. Puis il l'a répété encore hier.
Si c'est la faute, tu le dis mieux que moi. C'est un conflit avec
Marcel Aubu. Il l'a répété hier. Il a dit j'ai jamais rien eu contre les gens de Québec ou Québec. D'ailleurs, il a marié une Montréalaise francophone.
Si c'était un maudit raciste, d'après moi, il n'aurait choisi une
autre. C'est juste une question du propriétaire de l'équipe. Il n'était pas question que je joue pour lui. Puis si ce propriétaire-là avait été propriétaire des Leafs de Toronto, j'aurais pas joué pour lui non plus.
OK, question
qui
pour vous.
Ça,
choisissez un chiffre de 1 à 4.
3.
3, deux. Parfait. Ben là, OK, ça va être 3 puis 2. J'ai trouvé les Vox Pop de Vez, mais c'est en 4 parties.
Ça
fait que,
oui, ben c'est ça, parce que ça aurait été trop long. Ouais.
Ben, voulez-vous qu'on en écoute un bout?
On va en écouter un petit bout.
Oui.
Es-tu capable de nommer des coachs des Nordiques?
Ben, Michel Bergeron.
Yes.
Je sais pas d'autres. Non, je sais pas. Il y avait... Jacques Demers,
tu sais? Oui.
Rien. Bergeron, oui. Je me rappelle plus de son nom, là. Michel Bergeron.
Ah, je sais qu'il y a eu Maurice Richard. Il était là une game ou deux, je pense. Michel Therrien? Non?
Il y a quatre joueurs des Nordiques qui ont été admis au Temple de la Renommée. T'es-tu capable de m'en nommer?
Peter Stachny, Joe Sakic, Peter Forsberg, Michel Goulet.
Peter Stachny, ensuite Joe Sakic, Guy Lafleur. Je pense qu'il y a Peter Stachny.
Ouais.
Joe Sakic.
Ouais.
Peter Stachny.
Ouais.
Matt Sundin.
Oui.
Joe Sakic, Peter Forsberg, Peter Stachny.
En quelle année les Nordiques ont quitté Québec? Puis ils sont allés où?
Ils sont allés à l'Avalanche de Colorado en 1987.
Ils ont déménagé en Colorado, à l'Avalanche,
ouais.
Puis en 1995.
Non. Je le sais, mais pas quand elle est sortie.
Au Colorado en 1995.
Yes.
Ils ont déménagé à Colorado pour l'Avalanche, mais je sais pas en quelle année.
96 au Colorado.
Hey, sérieux, les joueurs du Temple de la Renommée, là.
C'était tough. Mais tu sais, en fait, c'était pour avoir une idée de ce qu'ils savaient des meilleurs joueurs. C'était qui les meilleurs joueurs de l'histoire des Nordiques, dans le fond?
Ouais, mais ils sont bons.
Ils sont hot, en mode. Hey, en sorte, là, que moi, je savais même pas qu'il avait joué pour les Nordiques.
Il y en a un qui a sorti Maurice Richard comme coach des Nordiques.
Hey,
il y avait pas tard parce que c'était pas dans la Ligue nationale, j'en conviens. C'était parce que Maurice Richard a été le premier coach de l'histoire des Nordiques, mais c'était dans l'AMH.
Non, mais l'autre
en
affaire.
En 1972.
Mais l'autre affaire, c'est que c'était tous des petits gars, tous des pieds avec des petites voix. Puis lui, ouais. D'après moi, il avait sauté 2-3 années parce que. Il avait le voix de monsieur, là.
Il a doublé son pioui, lui.
Maurice Richard, mais il a 2-3 games.
C'est le baryton de l'équipe.
Mais t'es-tu d'accord avec le Journal de Québec en page en une qui écrit accueilli poliment pour parler d'Éric Lindros?
Je pense que c'était un petit peu plus que poli.
Moi,
j'ai dit dans mon reportage pour RDS, j'ai dit plutôt chaleureusement. C'était pas très chaleureux,
ouais, c'est ça.
Mais plutôt chaleureusement.
OK. OK. Bon, c'est quand même.
C'était entre poli et chaleureux maintenant.
Hey, maintenant qu'on est dans le sport, Vez. Je veux te parler du Canadien hier parce que j'ai regardé un peu distraitement le match
ouais,
d'hier.
Moi aussi. Oh, c'était triste.
En fait, c'est parce que moi, j'étais content quand ça a commencé. J'étais triste quand ça a fini.
Oui, c'est ça.
Mais vous savez que je me lance rarement dans l'analyse. Moi, je suis dans l'émotion, tu sais. Mais Claude Julien, en point de presse hier, a fait quelque chose que les coachs font pas souvent d'habitude.
C'est rare
qu'un coach de la Ligue nationale va fustiger de la sorte les arbitres. Mm. Hier, Claude Julien, il s'est pas mal gâté de ce que j'ai
dit. Il s'est gâté. C'est sûr que quand on est un partisan du Canadien, on va dire ils se sont fait voler par les arbitres. C'est sûr qu'il y a eu un jeu en prolongation où Yoel Armia a été accroché, il est tombé, il n'y a pas eu de punition. Est-ce que il a été assez accroché pour le faire tomber ou s'il en a mis des. Parce
les
que,
deux, je dirais.
Bon, à ce moment-là, le vrai appel de l'arbitre, ça aurait été une punition de chaque côté.
Ouais.
Une punition pour avoir accroché, mais une punition pour ça, avoir.
Joué la comédie.
Ouais,
là,
dans vois. Le genre. Là.
Pour avoir exagéré. Oui. Mais ça, là, moi, d'ailleurs, là, je sais pas, c'est quand, dans la photo que tu as vu, un arbitre dans la Ligue nationale donne une punition pour avoir exagéré. Là.
Ça fait longtemps.
Ils font plus.
Ils font plus.
Et pour moi, c'est catastrophique. Parce que. J'ai peur que ça devienne comme le soccer. Puis je vous le dis, je le dis pas souvent parce que je veux pas que vous changiez de poste, mais, mais moi, je regarde le soccer, j'aime ça, c'est un sport vraiment qui me fait triper. Mais ce sport-là est indéfendable. Je peux pas dire à quelqu'un, non, regarde, tu vas voir, le soccer, c'est le fun, là, prends le temps de regarder un match au complet, parce que les gars tombent là, au premier coup de vent, puis ils font comme, ils pleurent, là,
dès
puis ils roulent la table.
Là, ils se font regarder de travers, puis ils tombent.
Puis ça c'est... C'est la gangrène de ce sport-là, cette attitude-là des joueurs, puis le fait que les arbitres sévissent jamais pour des joueurs qui exagèrent. Bref, ça, c'est le soccer.
Mais il n'y a pas de punition prévue, il n'y a pas d'infraction prévue pour ça.
Oui, il y en a.
Ah oui?
Oui, c'est ça le problème. Il y en a, c'est juste qu'ils ne les accordent pas.
C'est embellishment, là.
C'est quoi la sanction?
C'est un coup franc, je pense. Au lieu de donner un coup franc pour l'équipe qui a fait la pénalité supposée, là, ben c'est celui qui est tombé, puis après ça, tu repars de l'autre bord. C'est pas, mais
ils donnent pas de carton pour ça, genre?
Ils peuvent.
OK.
Oh, ils peuvent. C'est le même règlement qu'au hockey, par exemple. Au lieu de donner 2 minutes au gars qui a mis son bâton dans les jambes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'arbitres, puis les joueurs, ils sentent qu'ils n'ont pas le choix d'en mettre tout le temps un peu plus que le client demande. Puis là, ben, à travers le temps, c'est devenu l'espèce de comédie de théâtre d'été qu'on connaît. Mais au hockey, c'était parfait, ça allait bien. Quand les arbitres y appelaient une pénalité pour avoir exagéré, tu regardais le jeu après en reprise, puis 99% du temps, tu te disais « Ah, c'est vrai, ça fait suer quand c'est contre l'équipe pour laquelle toi tu prends, là. » Mais c'était tout le temps pas mal vrai. Tu te disais tout le temps « Ah, il en a rajouté un peu, il est allé essayer de chercher la pénalité. » Là, il donne plus rien. Dans le match d'hier, par exemple, ce qui a coûté le match, c'est pas celle-là. C'est un bâton d'en face de Max Domi, puis un bâton d'en face, pas à peu près, à peu près à 6 pieds de l'arbitre qui le fixe dans les yeux. Là, là tu te dis, à un moment donné, là, ton sifflet, il est pas là pour que tu le regardes, c'est pas un porte-clés.
Je suis d'accord. Mais ça se peut-tu que ce soit à cause du fait que ce soit Max Domi?
Ben non, mais Max Domi ou un autre, il mange un bâton d'en face.
Non, je comprends, mais...
Il n'y avait pas de décision.
Les arbitres, c'est des humains. À un moment donné, t'as beau dire ils essayent d'être neutres, mais Max Domi, c'est un tannant.
C'est vrai.
Il est toujours sur la ligne.
C'est un maudit Vera.
Ça fait que des fois, peut-être que les arbitres, ça y tente de donner une punition parce qu'ils sont... Mais non, il n'a pas franchi la ligne. Il est comme juste sur le bord.
Mais dans le cas de Kovalchuk...
Quand il subit ce genre de gestes-là, ben ils sont moins sympathiques.
On l'a-tu Claude Julien hier?
Oui, des extraits de ce que Claude Julien avait à dire sur le travail des arbitres hier.
Ouais, ben d'abord, on peut commencer par celui dont vous venez de parler, les punitions qui n'ont pas été appelées pendant le match.
T'as Kovalchuk qui se fait casser le bâton. C'est automatique. Si on donne le call à Sherrod pour slashing, si on revoit le replay, il se fait enfarger. Si on est pour donner la punition à Mia là, pour ce qu'on a appelé un accrochage, mais on donne pas une punition sur lui en sur-temps, avec le bâton en même place, Domi qui saigne de la bouche, je te dirais là, que c'est très gênant. C'est très gênant, honnêtement.
Ça, c'était l'entrée pour Claude Julien. Là, il s'est préparé, il s'est réchauffé. Ouais. Et c'est après ça que ça s'est gâté.
Je veux juste préciser une affaire. Au tout début, quand tu parles de Kovalchuk, son bâton a été brisé par un coup de bâton, c'est automatique. C'est vrai.
Ouais, mais hier, mais même ce geste-là, hier, moi, je trouvais que c'était pas clair parce que Kovalchuk frappe avec son bâton. T'as l'impression que c'est lui qui frappe avec son bâton puis que son bâton brise.
OK, mais là, c'est... Puis je veux juste mentionner, parce que, écoute, ça fait longtemps que je suis dans le sport, là, puis que j'entends, puis je vois des réactions de coach, puis de joueurs, etc., etc., c'est un côté de la médaille.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi, j'ai vu hier, sur une mise au jeu, le joueur des Stars se faire casser son bâton par le joueur du Canadien. Mais c'est sur une mise au jeu, ça paraît quasiment pas, tu sais. Parce que tu dis, ah, il se bat pour la rondelle. Mais le joueur des Stars s'est fait quand même casser son bâton. Il est allé au banc changer de bâton. Pendant que les banc sont à 4 contre 5.
Je te l'accorde.
Puis il n'y a pas eu de punition. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que Claude Julien, il va pas parler de ça.
Ben non, c'est ça. Surtout qu'il est fâché parce qu'il a perdu. Ça fait
en
que là,
plus.
Parce que même Domi, là, au moment où il s'est mis à saigner de la bouche, là Julien fait... Non, je pense pas. Mais Julien fait référence à ça. Non, mais ça, c'est parce qu'il a mangé deux coups d'en face. Mm-hmm. Mais il y en a un, il se bat pour la puck, il mange un peu un genre de bras, un avant-bras d'en face. Le joueur de l'autre équipe regarde pas, c'est que tu vois que c'est accidentel.
Oh, oui, mais
fait qu'il y a une zone d'interprétation. Le bâton d'en face en temps supplémentaire, il n'y en a pas. C'est pour ça que cette pénalité-là, pour moi, c'est la seule dans le match qui est indiscutable. Les autres, il y a tout le temps un peu une zone d'interprétation. C'est pour ça que des fois, c'est malaisant quand le coach décide qu'il commence à arbitrer à la place des arbitres.
Mais le problème aussi au hockey, c'est que tu as mentionné le mot interprétation. Il y a toujours plein de zones grises au hockey.
Ouais.
Beaucoup plus que dans les autres sports. Puis souvent, un arbitre va compenser une erreur qu'il a faite plus tôt dans le match par une autre erreur plus tard dans le match.
Oui.
Puis évidemment, dépendamment de quel bord tu te trouves, tu vas dire « Ah, il a fait une erreur, mais t'as oublié l'autre devant, par exemple. »
Oui, c'est ça. C'est assez pour le hockey.
Tu veux pas entendre Claude Julien qui pète sa coche pour vrai?
Ah, mais ça, dis, c'était même pas le pétage de coche.
Non, à tape peu, ça, c'est la suite.
Je te dirais là, que c'est très gênant. C'est très gênant, honnêtement. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te frustres parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est assez évident là, qu'on aurait dû avoir des power play. C'est que moi, je ne sais pas. Là, je pense qu'il y a des gens qui auraient des comptes à rendre après ce match-ci. Puis c'est une soirée où aurait fallu qu'on batte deux équipes ce soir. Si on parlait à l'arbitre, il criait après nos joueurs. Il n'était même pas capable de parler avec. Il criait, il envoyait les joueurs se promener. Il a démontré de la frustration dans lui-même. C'est que j'ai pas discuté avec l'arbitre, j'ai pas dit un mot. Seule chose que j'ai dit proche du banc, j'espère que vous prenez le temps de regarder vos matchs, vous aussi. Hein? Puis il m'a envoyé se promener.
il m'a envoyé. Comme ça, comment, au lieu de dire il m'a envoyé promener, il dit il m'a envoyé se promener.
Ouais.
C'est ça qu'il fait. ouais, c'est folklorique. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive une fois par année, à peu près.
Oui.
Je veux vous parler vite, là, dans le journal en page 5 ce matin, il est question des deux premiers Québécois qui ont contracté le fameux COVID-19, là, le coronavirus, qui fait peur à tout le monde depuis une couple de semaines. Puis je voulais juste rectifier une affaire ou deux, parce que, grosso modo, l'article est correct, c'est bon. Ils ont parlé avec les enfants des deux individus qui se trouvent, là, eux autres, ils étaient à bord d'un bateau
de croisière. Diamond Princess sur le bord du Japon.
C'est ça. Donc, ils étaient à bord d'un bateau de croisière au Japon. Deux individus de 73-75 ans. Là, leurs enfants sont hyper inquiets parce que, veulent pas, leurs parents sont à l'autre bout du monde, puis il y a vraiment quelque chose d'inquiétant là-dedans. Et j'essaie de comprendre cette angoisse-là. Je suis très empathique à leur cause parce que, mon Dieu, je suis content de pas être à leur place. Là. Mmh. J'aimerais vraiment pas ça, me retrouver dans cette situation-là où on entend parler du coronavirus depuis des semaines. On a un peu peur de ça. C'est une épidémie mondiale. L'Organisation mondiale de la santé est très sérieuse. Puis bon, il y a des quarantaines, machin. Là, à l'autre bout de la planète, tes parents, dans 70 ans, tu veux pas te retrouver là, mais il y a énormément d'émotions. Puis d'une certaine façon, comme je vous dis en lisant l'article, je me disais quelque chose de triste et quelque chose d'angoissant en lisant cette nouvelle-là en page 5 du journal. Cela dit, j'espère qu'il y a des gens pour expliquer, j'espère qu'il y a des gens au gouvernement, par exemple, pour expliquer à ces personnes-là, donc aux enfants de ces personnes-là qui sont pris au Japon, pourquoi leurs parents sont pris au Japon. Parce que là, ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est que ils sont bien inquiets, les parents ont été transférés à l'hôpital au Japon, mais ils voudraient qu'ils rapatrient ici pour qu'ils soient soignés ici. Puis là, ils ont reçu un communiqué pour dire que finalement, les gens qui étaient atteints allaient rester au Japon, les autres allaient être rapatriés par un avion qui était affrété. Bon, le principe d'une quarantaine, là, c'est un peu ça. Mm-hmm. Là, ils sont affectés par le fameux virus. Il faut qu'on les mette en quarantaine. Là, les chambres à l'hôpital au Japon, par exemple, là, c'est des chambres où les individus sont, entre guillemets, isolés. C'est-à-dire, c'est des chambres juste pour une personne. Mm-hmm. C'est fait pour qu'il y ait juste une personne. Fait que là, les enfants qui sont ici au Québec disent « Ah oui, mais là, nos parents n'ont jamais été séparés en 53 ans de mariage. Ça va être anxiogène pour eux autres. » Mais c'est une quarantaine.
Ben,
ils n'ont pas le choix.
C'est
là.
C'est plate, là.
Mais... C'est extrêmement plate, mais...
C'est pis, ce que ça prend.
L'autre affaire, c'est que le Japon, c'est pas le tiers-monde, là.
Non.
C'est loin. Je comprends. Je vous le dis, là, je veux pas avoir l'air d'être en train de chialer. C'est juste que je lisais ça, je me disais, mais ces gens-là, ils sont pas rassurés, là.
Non, mais il y a
personne
deux,
qui
trois,
leur explique, là.
Il y a deux, trois trucs à apporter aussi à travers tout ça. C'est que la première des choses, eux, ils ont eu beaucoup de misère à entrer en communication avec les autorités canadiennes. Puis ils l'ont dit depuis le début, là.
Ouais.
Honnêtement, là, ils ont réussi à parler avec l'équipe de Paul Arcand en entrevue avant de pouvoir parler avec les autorités canadiennes. Tu sais, ça en dit long, là. Ils étaient déjà là-bas sur le bateau. Puis l'autre chose, c'est que ils auraient bien aimé ça, eux autres, pouvoir sortir du bateau avant de contracter le coronavirus. Mais le navire, aussitôt qu'il y a eu quelques cas à l'intérieur, ils ont mis le navire en quarantaine, il n'y a plus personne qui bougeait.
Oui, c'est ça, mais c'est parce que...
Pour ça aussi.
Mais c'est parce qu'ils l'avaient peut-être avant d'avoir des symptômes.
Ben, il y a ça.
Tu peux penser que tu l'as pas, parce qu'apparemment tu peux l'avoir, puis il y a des symptômes qui se développent.
Plusieurs jours plus tard.
Ça se peut, effectivement, mais l'autre affaire, c'est que si tu veux empêcher la propagation, t'as pas le choix, là. Mmh,
je comprends
que c'est des mesures sérieuses puis un peu draconiennes d'une certaine manière, mais tu peux pas faire vraiment autrement.
Non.
Parce que là, imagine si ça, d'abord, ça peut être asymptomatique de ce que je comprends. Puis ensuite, ben, OK, il y a des gens qui l'ont sur le bateau. Ça fait que là, on va tous vous sortir du bateau. On va vous envoyer dans des hôpitaux. Ben non. Ça marche pas, là. Mmh. Tu veux dire, il faut que tu limites la propagation de cette maladie-là.
Mm.
Donc, encore une fois, je suis empathique à la cause de ces personnes-là. Je partage un peu leur angoisse. Je comprends que ça peut être vraiment angoissant. Je souhaite le mieux à leurs parents qui sont au Japon, mm-hmm. Oubliez pas qu'ils sont pris en charge quand même par le système de santé japonais. Ils ne sont pas juste non plus perdus dans les limbes des croisiéristes. Là.
Non, ils sont pas dans le tiers-monde non plus. Là. Ça se dit, j'ai rien contre le tiers-monde,
mais ils sont
dans un pays très modernisé, puis ils ont tous les soins possibles.
Puis après, moi, la seule affaire que je peux surveiller puis peut-être critiquer le cas échéant, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent des gens au gouvernement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne ces personnes-là pour leur dire, bon, regardez, là, aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. C'est une base quotidienne. Là. Voici ce qui s'est passé. Voici, ils en sont où. Essayez de mettre les individus en communication avec leurs parents, d'essayer de faire des bilans. Ça prend ça, là, parce que je comprends qu'ils soient sur le nerf. Mais là, il y en a des choses à leur dire pour les rassurer. Là.
Ouais.
Ils sont pris en charge. Ils sont en sécurité. Puis, on les soigne. Là.
Mm-hmm.
Bon. 7h25. Au retour de la pause, notre ami Francis Gosselin, notre économiste surqualifié et très trash de par son jingle, s'en vient nous parler de ce que notre autre ami économiste un peu trash, Pierre-Yves McSween, a appelé le plus grand fiasco d'Investissement Québec de tous les temps, ou quelque chose comme ça. Évidemment, vous aurez compris qu'on parle de Bombardier. Il a dit que c'était un des plus grands fiascos d'investissement au Québec. Quand même pas rien. Et Francis a dit quelque chose. En tout cas, j'ai ça quelque part sur ma feuille.
Oui, veux-tu que
Il a dit que bientôt, il va juste rester Denise à vendre.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là. Du M. Le midi. Avec Éric.